Renault 5 e-tech électrique est élue voiture de l'année 2025 par 60 journalistes dans 23 pays. C'est la 8e fois que Renault remporte ce prix. Après Scenic e-tech électrique en 2024, Renault est la première marque française à réaliser ce doublé. Ça fait beaucoup de chiffres, mais s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est que R5 est numéro 1. Est-ce que ça compte? Oui, quand on doit choisir sa voiture électrique, c'est le genre de chiffres qui compte.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Flo, de quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu retiens ce soir?
Bah en fait, un peu de Coupe d'Europe, parce que le turnover a fait du mal. Pour le PSG, ça tendait au nez. Pour Lille aussi. Pour le PSG, donc, ça aurait pu arriver à Lens déjà. Ça aurait pu arriver la dernière fois. Ça arrive là. Comme Luis Enrique gère avec l'avance au classement, ça donne ce genre de match où il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est pas l'équipe type. Et puis il y a des petites choses intéressantes comme la première de Kvara, qui a pas été géniale en première, mais qui est intéressante. Le deuxième point, c'est Lille, donc qui perd quand même deux fois de suite, alors qu'ils étaient invaincus depuis 20 ou 21 matchs. Et là aussi, le turnover. Je vais te dire, le match est bizarre, parce que j'allais dire que Genesio gérait super bien son truc. Je trouvais pas que c'était un mauvais match, mais je reconnais que Rosenior et ce Strasbourg là, c'est assez intéressant. On va en parler. Puis Monaco-Rennes. Monaco va mieux, mais je dirais un mot de Rennes quand même, parce que sans défense et sans personnalité. Comme l'a dit d'ailleurs Fofana à la fin du match.
Ouais. On l'écoutera. Ouais. Il a fait une sortie assez forte à Seco Fofana. Damien, de quoi tu veux parler ce soir?
Moi, j'aimerais parler de Biret à Monaco, qui m'a fait une belle impression. Je le connaissais pas du tout et franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien ce qu'il a présenté cet après-midi. Ensuite, j'irai sur Strasbourg et sa fougue qui a retourné Lille en 4 minutes. Pourtant, un peu comme Flo, je pensais que Lille maîtrisait son sujet et était plutôt solide. Et encore une fois, Rossignol, en changeant ses plans à la mi-temps, a totalement modifié son équipe et son visage surtout de son équipe. Et puis, je n'irai pas sur les Européens et sur la Coupe d'Europe de cette semaine, mais sur Mbappé qui confirme sa forme et avec ses trois nouveaux buts qui vient encore une fois de taper sur la table.
La Ligue 1, pour commencer, un partout donc ce soir entre le Paris Saint-Germain et Reims. Paris qui prend provisoirement 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu soulignes, Flo, le turnover parisien ce soir? Est-ce que ça veut dire qu'il faut au final pas retenir grand-chose? Je veux dire, pas tirer de conséquences de ce qu'on a vu ce soir, quoi.
C'est je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, tu m'as posé la même question par rapport au match à Lens en disant est-ce qu'on peut,
non, je me rappelle pas.
on peut se poser des questions sur ce PSG. Je t'ai dit aucune. C'est pas le PSG qui va jouer contre City. Aucune inquiétude. Le PSG contre City, c'est celui que tu vois contre Monaco deux fois à la fin de l'année et au début de la nouvelle. C'est celui que tu avais vu contre Lyon. Bref, c'est vrai que c'est un petit peu gênant, mais effectivement, Luis Enrique profite de ce match. Il met Kvara parce que Kvara, lui, va pas jouer le prochain match. Il met pas Hakimi parce qu'Hakimi joue énormément, il a besoin de le reposer. Donc, tu n'as plus les mêmes automatismes. Donc là-dedans, tu dois piocher et tu dois aller voir ce qui va et ce qui va moins bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence déjà à travailler son attaque avec Vara en faisant rentrer au départ Barcola côté droit. Donc, il se sert, on peut le regretter, hein, mais lui se sert de ce match, de ce genre de match, pour continuer son Mikado, parce que, comme tu l'as dit, au classement, bah, il a de la marge. Ouais. Alors, c'est pas pour autant qu'on doit pas souligner que Reims fait une belle perf, que venir faire un nul au Parc, c'est pas anodin cette année, parce que je crois que le PSG, on est à 5 nuls, c'est son 5e nul seulement, sinon c'est que des victoires.
Ouais. Donc, c'est la deuxième fois simplement que le PSG gagne pas au Parc des Princes en Ligue 1. Il y avait le match nul contre Nantes et
il faudra qu'on parle de Reims. Mais effectivement, pour répondre à ta question, non, je pense pas qu'il y ait de questions particulières à se poser par exemple.
Damien, je te donne la parole dans un instant. Juste, c'est terminé au rugby. Le gros coup des Lyonnais à Bordeaux, hein, Nico.
Gros coup des Lyonnais à Bordeaux qui viennent de faire tomber l'UBB qui est resté sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Lyonnais qui s'imposent 22-20. Énorme d'abnégation dans le combat. Franchement, ils ont été présents et plutôt efficaces en deuxième mi-temps. Bordeaux paye les doublons, hein, bien évidemment. C'est sûr qu'avec énormément d'internationaux réquisitionnés, c'est pas la même. Mais Toulouse a su gagner cet après-midi. Bordeaux ne l'a pas fait. Bordeaux prend malgré tout un point de bonus défensif, égalité en tête du top 14 entre Toulouse et Bordeaux, et les Lyonnais remontent à la 9e place du top 14. Énorme perf du loup sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles.
Merci Nico, la bonne soirée.
Ciao.
Damien, bon, c'est vrai qu'il y a eu le turnover, je rappellerai la compo tout à l'heure, mais on attend mieux quand même de Paris face à Reims, surtout le Reims de ces dernières semaines, quoi.
Oui, bah c'est sûr que face à ce Reims-là, oui, même qu'il y ait un turnover ou pas, on attend que le Paris Saint-Germain gagne et remporte ce match. Après, je pense qu'il peut peuvent s'en vouloir après la première mi-temps où ils ont quand même deux grosses opportunités et Van Djouf fait deux beaux arrêts. Ils auraient pu tuer le match à ce moment-là. Après, il y a des points positifs. Flo l'a dit aussi parce que tactiquement, il a pu travailler des choses ou en tout cas faire voir des choses qu'il souhaite mettre en place. Mais pour moi, oui, je reste un petit peu sur ma faim parce que j'aurais aimé que le Paris Saint-Germain soit capable de battre une équipe de Reims qui n'est pas en forme en ce moment, qui a son entraîneur qui est menacé et qui pourtant ce soir a livré un match dans le combat physique et dans l'abnégation et dans l'état d'esprit collectif très très bon.
Jean-Baptiste, supporter parisien, nous a appelé au 32-16. Salut JB, bienvenue dans l'After.
Salut à tous.
Bonjour Baptiste, est-ce que toi tu adhères à ça en gros ce match ce soir là entre les deux matchs de Coupe d'Europe, on s'en foutait un peu?
Alors, on s'en foutait, oui et non, parce que, comme l'a dit Flo, l'avantage de la Ligue 1, c'est que derrière, ça avance pas, donc Luis Enrique peut se prendre le luxe de faire toujours tourner. Hein. On voit encore que, malgré le point, avec le point qu'on a pris, il suffit que Marseille fasse accrocher par Nice, et on se retrouvera toujours avec au moins le même matelas d'avance. J'ai envie de vous dire, il y a une chose qui m'intéresse dans ce qu'on a vu ce soir, c'est quand Luis Enrique fait tourner comme ça, est-ce que si on avait vraiment fait le boulot au début des matchs de Ligue des Champions...
Ah, Jean-Baptiste, on t'a perdu. Ah ben on a perdu JB. On n'aura jamais la question de Jean-Baptiste. Bon, on l'a compris collectivement, c'était un pari avec du changement derrière, Kvara qui était titulaire. Justement, bon, c'était un peu l'attraction du soir. Il a été présenté. D'ailleurs, on nous a dit présentation, ça a été très vite fait. Hein. Il est venu avec le maillot, il a montré son petit maillot floqué 2029. Il est rentré au vestiaire. On n'était pas dans le faste qu'on a pu connaître parfois avec le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'est peut-être totalement volontaire cette petite présentation. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première de Kvaratskhelia avec le Paris Saint-Germain, 82 minutes de jeu et une passe D, magnifique passe D d'ailleurs.
Il y a une première mi-temps timide où on a senti un joueur qui avait envie de montrer des choses et qui était un petit peu dans la précipitation. Je l'ai trouvé un peu trop tête baissée à vouloir aller dans le 1 contre 1 et pas faire forcément les bons choix. Il s'est fait quelquefois bouger aussi physiquement, donc c'était le bon jour de la Ligue 1. Et une deuxième mi-temps où je l'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise à rentrer à l'intérieur, à combiner énormément avec ses coéquipiers. Il a souvent pris appui et redemandé derrière, ce qui a fait bouger les lignes. Et sur le but, c'est lui qui fait toute la différence au départ. C'est une 50-50 sur cette première, mais je trouve que c'est encourageant parce que on peut voir de belles choses et il peut apporter autre chose à l'attaque du Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est ça, on a l'impression qu'il a voulu un peu forcer ce qu'on disait pendant le live, un peu prouver au début, montrer derrière des joueurs que je suis, puis très vite en deuxième période, c'était plus délié quand même.
En fait, en première, il était pas bien et il a fait des choses pour faire la diff seule ou des passes un peu étonnantes, ratées d'ailleurs. Et puis en deuxième, il y a un truc, je pense que dans ce système-là, dans cette structure telle que le veut Luis Enrique, il peut totalement trouver sa place. Donc en fait, il est parfaitement bien dans ce collectif. Enfin, il va être bien dans ce collectif. Donc s'il se laisse jouer comme il joue d'habitude, je pense qu'il a sa place, évidemment. Après, le plus intéressant pour moi, c'est maintenant d'avoir du challenge et de la concurrence sur ces postes-là. Barcola, c'est exactement ce dont il avait besoin aussi. Tu peux pas dire à ce jeune-là, que j'adore, hein, que je défends depuis le début, c'était ta place, c'est toi qui es l'ailier gauche du PSG. En gros, déjà avec Luis Enrique, bon, ça n'existe pas vraiment, mais même en général dans un grand club, ça n'existe pas, et surtout pas à cet âge-là. Donc, il va être challengé, il va être rebasculé, on l'a vu côté droit, comme il l'a fait déjà à Lyon dans sa jeune carrière. Pour l'instant, moi, c'est plus les effets connexes sur le reste de l'effectif et les autres joueurs qui m'intéressent, parce que Kvara, on le connaît, c'est un excellent joueur. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va s'intégrer dans le système de Luis Enrique. Et d'ailleurs, ce soir, effectivement, il a mis une mi-temps, en gros, à s'adapter. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne première, mais même s'il avait raté sa deuxième mi-temps, je serais pas très inquiet pour Kvara au PSG.
Il est de retour. Le comeback de Jean-Baptiste.
Excusez-moi, c'est un peu la tempête dehors. Oui, je posais une question, c'est qu'effectivement, est-ce que si le PSG avait fait aborder différemment cette Ligue des Champions, on en serait à faire autant de turnover et pour se préserver pour le match de mercredi prochain? Alors, visiblement, je pense que oui, parce que
il ferait du turnover parce que Luis Enrique, c'est par rapport au classement de la Ligue 1 aussi. Déjà, il aime bien le faire, même quand il n'y a pas de problème. même quand il n'y a pas de, je veux dire, de marge, mais là il a de la marge, donc il fait du turnover.
Ouais, mais on revoit tout ce qui fait défaut au PSG, Ruiz, Kanginli ou Renzaremri arrière droit, enfin Beraldo axe droit alors qu'il est gaucher. Bon, c'est vrai que le PSG s'est un petit peu endormi. Alors ils ont nettement dominé, même si Reims a quand même eu des opportunités très intéressantes en première mi-temps. Hein, il faut quand même, on n'a pas eu une domination outrancière. Sur des moments de possession rémoise, on aurait pu se faire peur plusieurs fois. J'ai envie de dire que effectivement le match, ils l'ont pris un petit peu par-dessus la tête parce que l'objectif numéro 1,
c'est plus dur
par-dessus la jambe aussi peut-être.
Ouais, par-dessus la jambe, ouais, par-dessus la tête,
par-dessus la troisième corde.
Ce qui est gênant dans ces matchs-là, c'est plus pour les joueurs qui joue peu titulaire ou moins comme Ramos, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais tourner, tu dis bon là tiens tu vas jouer en fait, hein, c'est toi le neuf. Alors que tu sais que ton coach veut pas jouer avec un vrai neuf, que c'est donc le jour du turnover sans automatisme que tu vas avoir ta titularisation. Et c'est vrai que quand tu vois le début du match, la salle des machines qui a été magnifique contre City et qui nous régale souvent, c'est quand même le milieu de terrain. Mmh. C'est quand même un milieu de terrain sans Ruiz, même s'il était là en première mi-temps. Mais on va dire Zaïre Emery, Vitinha, Joao Neves. Là, t'en as deux sur le banc, un arrière droit.
Là, c'était Ruiz, Doué et Lee.
Là, tu regardes la compo, tu sais qu'il va y avoir des problèmes de toute façon. Mmh. Donc c'est vrai que moi, je pense plutôt aux joueurs. Pas ceux qui tournent comme Dembélé, enfin qui est là, qui jouait mais qui parfois tourne, ou Barcola qui va revenir en deuxième mi-temps, ou Gvara qui sera titulaire. Je pense aux joueurs comme Ramos, qui profite pas de l'occasion parce qu'en fait c'est jamais les bons matchs pour briller.
T'as raison. On va ouvrir le dossier Ramos dans un instant. On va faire une courte pause. Je remercie Jean-Baptiste d'avoir été là. À bientôt, Jean-Baptiste. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Bon week-end.